Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Dime. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Alain Joubert. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Fauré pour parler de la transition du milieu de vie et du processus d'individuation. Christophe Fauré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement du deuil et de la fin de vie. Vous exercez en pratique libérale à Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages chez Albin Michel, dont « Vivre le deuil au jour le jour », pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu ici. « Vivre ensemble la maladie d'un proche ». Et nous vous recevons aujourd'hui pour « Maintenant ou jamais », avec en sous-titre « La transition du milieu de vie » chez Albin Michel. Alors, c'est assez amusant parce que, évidemment, on se dit que c'est un livre sur la crise de la mi-vie, la fameuse crise de la mi-vie.
Crise, ouais.
Et vous commencez par démolir un peu cette idée. Donc, racontez-nous un petit peu pourquoi, aujourd'hui, la question de la fameuse crise du milieu de la vie est assez battue en brèche.
Parce que c'est un peu une tarte à la crème, en fait, hein, de crise. En fait, crise de la quarantaine. Et en fait, il n'y a pas de crise, et c'est pas à la quarantaine que ça se passe, plutôt 45-55 ans. En fait, ce concept vient des années 70. Une journaliste avait interrogé deux professeurs, un de la côte est des États-Unis et un autre de la côte ouest, qui avaient étudié un petit peu le vague à l'âme des hommes de 40 ans.
C'était les hommes. Hein.
C'était une étude sur les hommes, oui. Et pour expliquer, ils avaient fait une étude pour explorer de quoi il s'agit. Et en fait, l'article a eu un tel succès que cette journaliste, Chihi, C-H-2-E-H-Y, avait décidé d'en faire un livre qui est dans les années 70, donc s'appelle Passage, et qui décrivait toutes les étapes de transition au cours de l'existence, passage de l'enfance à l'adolescence, etc., etc. Et notamment, une description quasi apocalyptique, catastrophique de ce qui serait la quarantaine, avec vraiment un effondrement dépressif, une remise en question de tout ce qui se passe dans l'existence, du couple, de la relation aux autres. Enfin, quelque chose qui était vraiment assez, assez anxiogène, assez angoissant. Et curieusement, ce concept de crise de la quarantaine est entré, je dirais comme dans du beurre, dans l'inconscient collectif américain, de la culture populaire américaine, ce qui fait que ce concept a fait tache d'huile sans être jamais vraiment remis en question dans sa pertinence. Et ce n'est qu'il y a peu de temps, une dizaine d'années, où des chercheurs, sociologues et psy, se sont penchés sur la pertinence de cette notion.
Fait des études statistiques.
Voilà, tout à fait. Et il y a une très grosse étude de la MacArthur Foundation qui a exploré vraiment en détail la réalité du vécu des personnes autour, non pas de 40 ans, mais de 45-55 ans. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de crise. Il y avait certes évolution, mais pas révolution avec
explosion.
On bazar de tout avec l'image un peu caricaturale de l'homme qui était trader et qui laisse tomber
pour
tout
devenir
pour devenir moine ou partir sur un grand voilier, faire un tour du monde ou partir avec une Porsche rouge en laissant femme et enfant et partant avec la babysitter. Des clichés comme ça qui pourtant correspondent à ce que les gens s'imaginent, avec une vision aussi très négative de cette transition de vie qui est un moment normal, naturel, on va en parler, incontournable.
Donc,
ce que
vous dites, c'est qu'il y a un vrai passage.
Il y a un vrai passage. Je le dis accompagné quand même du regard de Carl Jung, le psychanalyste suisse, qui a véritablement décrit le processus donc, d'individuation qui correspond à cette période.
On va en parler. Mais ce passage, il concerne que les hommes ou les hommes et les femmes?
Les hommes et les femmes. C'est vraiment comme l'adolescence. Ce n'est pas une nouvelle adolescence, hein, mais comme l'adolescence est une transition de vie qui survient chez l'homme, l'homme et la femme, c'est exactement la même chose. Alors que, justement, dans cette crise de la quarantaine, on l'a à tort attribué principalement aux hommes. Pas de crise, mais transition. Pas la quarantaine, mais plutôt 45-55 ans. Mais là, réellement, il se passe quelque chose. Là, réellement, il y a une nécessité de s'arrêter, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Et c'est là que vous rejoignez le concept jungien de processus d'individuation, en disant ce qui se passe à ce moment-là correspond bien à ce que Jung décrit comme le processus d'individuation. Donc, explique-nous de quoi il s'agit et quelles sont ces différentes étapes, parce que vous montrez qu'il y a différentes étapes dans le processus d'individuation.
Oui. Le processus d'individuation, ça renvoie à une étape donc naturelle, prévisible, incontournable de la personne humaine autour de cette phase de l'existence où, a priori, on s'imagine qu'il ne va pas se passer quelque chose de majeur. C'est par exemple une jeune femme qui a construit sa vie de couple, qui a ses enfants, qui a une vie professionnelle, une vie, un réseau social, enfin qui a construit véritablement dans la première moitié de son existence. Elle doit avoir autour de 45-46 ans et il y a pourtant quelque chose, alors que tout semblerait concourir à un bonheur, à un apaisement, à quelque chose de bien posé dans son existence et stable, quelque chose qui titille de l'intérieur avec une espèce, parfois, alors, les manifestations sont variées, mais parfois une espèce de vague à l'âme, parfois même une angoisse en se réveillant le matin, parfois même des pleurs, parfois même vraiment un mouvement dépressif, sans forcément parler de dépression, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une insatisfaction et une question fondamentale qui est: mais est-ce que je vis vraiment la vie que je veux vivre? Et une difficulté même à s'ouvrir à autrui par rapport à cela, parce qu'on a supposément tellement de choses, tellement construit de choses, qu'on a peur de paraître comme un enfant gâté qui a tellement de choses qu'il commence à se poser des questions existentielles. Or, non, il y a quelque chose de fondamental, et on le revoit aussi avec la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Il y a vraiment un besoin qui s'exprime à ce niveau-là, alors que les autres besoins fondamentaux ont été satisfaits, d'accomplissement personnel. Et en fait, dans la première étape donc du processus d'individuation, en fait, cette première étape renvoie à la première moitié de la vie qu'on appelle la phase d'accommodation. Et accommodation veut bien dire ce que ça veut dire. On s'accommode. C'est-à-dire que pour trouver notre place dans le monde, il y a nécessité de répondre aux injonctions de notre éducation, notre société, des professeurs, de nos parents, qui vont nous dire, nous guider aussi, hein, ce n'est pas du tout négatif, mais qui vont nous dire comment trouver notre place dans le monde, comment exister, comment aimer et être aimé. Et donc, ça va être, tu vas faire telles études, tu vas te comporter de telle façon, tu vas adopter telle caractéristique culturelle, etc., etc. Donc, au bout du compte, il y a une partie de soi qui va se conformer à ça en fonction des règles du jeu, qui sont beaucoup des règles du jeu extérieures. Il y a peu de règles du jeu intérieures qui régissent cela, et on s'y conforme. Et il n'y a pas du tout d'erreur par rapport à ça, parce que c'est effectivement en suivant ces injonctions, ces recommandations, ces chemins de vie, qu'on va pouvoir effectivement construire une vie affective, professionnelle, sociale, etc.
Bien sûr, hein, sur des règles.
Mais il y a dans ce concept de construction, de première phase de notre vie, ce que Jung appelle l'élaboration de la persona. La persona, avec un grand P majuscule, serait cette dimension de nous qui serait notre petit moi, notre petit ego, c'est-à-dire une dimension réduite, fragmentée de ce que Jung appelle le soi, qui est une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus essentielle, beaucoup plus proche de ce que nous sommes, par essence donc, et qui est notre lot quand nous sommes nés. Il parle du soi, grand, avec un grand S majuscule, comme étant notre dimension fondamentale avec laquelle nous arrivons dans le monde. Et cette dimension est, dit-il, inconsciente d'elle-même. Pour qu'elle devienne consciente d'elle-même, il y a tout le processus d'individuation, et notamment de ce rétrécissement de ce soi, de cette cristallisation sur une dimension de ce soi qui va être justement cette persona, qui ça va être le moi social.
Oui, qui s'est construit par le regard des autres, finalement.
Qui s'est construit par le regard
des autres. Et les attentes
des autres. Et qui fait que, donc, on va exister sous le regard des autres dans le monde. Aimer, être aimé, trouver sa place. Et donc, il y a cette fragmentation du soi qui va être une partie plus consciente de nous, la persona. Mais en choisissant certaines choses dans notre vie, d'être ceci ou cela, telle voie professionnelle, telle voie affective ou autre, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Et le non-choisi dans notre vie et non pas écrasé, ne disparaît pas notre vie psychique, il est relégué dans ce que Jung appelle l'ombre, avec un grand O majuscule. Et cette ombre, c'est tout ce qui n'est pas vécu. C'est tout ce qui est un peu, comme prendre une image, relégué dans les étagères de notre inconscient. Ça ne disparaît pas, mais ça reste là. Ça peut être des choses très négatives qui sont reléguées dans l'inconscient parce qu'elles ne peuvent pas avoir de place dans la vie sociale. C'est les pulsions sexuelles trop démesurées, des pulsions très égoïstes ou le sadisme, etc. Des choses très négatives. Donc ça, c'est bien que ce soit relégué et contrôlé au niveau de l'ombre. Mais il y a aussi des dimensions de nous très positives. Et c'est là où l'inconscient de Jung est assez différent de l'inconscient de Freud. Dans l'inconscient de Jung, je résume un petit peu, il y a véritablement des dimensions extrêmement positives. Ça peut être une créativité que l'on stocke dans l'ombre de soi parce que on a des injonctions familiales de mon fils, tu feras une école de commerce.
Tu ne seras pas musicien.
Ou une jeune femme que j'ai rencontrée pour écrire le livre, elle avait une aspiration de grand reporter. Elle avait vraiment un talent d'écriture et une façon de prendre des photos qui a une vraie singularité. Et elle a épousé le fils du notable du village en mettant dans l'ombre une dimension artistique qui toute la ville a taraudée et curieusement commencé à émerger autour de cette phase de transition du milieu de la vie. Et donc cette phase d'accommodation où s'élabore la persona et l'ombre, c'est un temps où ça fonctionne bien tout cela. Mais arrivé au début, c'est la deuxième étape, une espèce de rencontre avec les limites de ce cheminement-là, et c'est autour de justement 40-45, où on se rend compte que, ok, ça fonctionne, on a sa place, mais il y a quelque chose, justement, ce petit titillement intérieur, dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre, avec pour le moment pas du tout de piste pour ce qu'on veut vivre vraiment, puisqu'on est toujours dans les règles de fonctionnement de la première moitié de vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a cet écho d'impression qu'on n'est pas dans la plénitude vraiment, qu'on n'est pas dans une authenticité pleine et entière par rapport à soi, ce qui est assez juste puisqu'on s'est construit beaucoup en fonction d'un référentiel extérieur.
Est-ce que ce qui déclenche pas cette première interrogation, plutôt que simplement une insatisfaction par rapport à quelque chose dans soi qui n'aurait pas été vécu, est-ce que c'est pas déclenché au départ par des soucis, par exemple un problème de santé,
ça peut être des choses
pas des somatisations,
des
psychologiques, des dépressions.
Le corps peut être un signal, et d'ailleurs pour les femmes, le corps est un signal très très fort avec le premier signe de ménopause ou le premier signe de vieillissement qui sont là sur le visage, avec vraiment l'idée que cette immortalité n'est peut-être pas aussi certaine que cela. Il peut y avoir aussi, après, on arrive à 40-45 ans, peut-être après 10 ans, 15 ans ou 20 ans de vie commune, et un réel questionnement sur « mais qu'est-ce que je vis dans cette relation-là » Il y a peut-être un peu de désamour, il y a peut-être perte de désir. Il peut y avoir aussi des facteurs extérieurs où les enfants maintenant commencent à envisager le départ de la maison. Et donc ce fameux syndrome du nid vide, qui là aussi est un peu une tarte à la crème, mais qui renvoie aussi au vécu du parent qui s'inquiète peut-être de quitter ce statut de parent pour devenir amant ou amante à nouveau, avec une interrogation, ça fait 20 ans qu'on ne fonctionne plus sur ce mode-là, comment on va faire? Oui, il y a différents... En fait, c'est un diamant, il y a plusieurs facettes, et en fonction de la personne, il y a plusieurs facettes qui vont être mises en résonance comme point d'entrée dans la transition du milieu de la vie. Et donc, ce n'est pas un aspect particulier, c'est plusieurs... Ça peut être un questionnement professionnel, où la personne se demande, mais... c'est pas ce que je veux faire, je suis plus du tout là-dedans, avec une modification des priorités. C'était peut-être la carrière à tout prix, c'était peut-être décrocher tous les contrats, et à un moment donné, mais c'est quoi le sens de ça? Mais je suis plus vraiment heureux, moi, dans cette activité qui pourtant me conduisait à faire énormément de sacrifices avant. Et donc, quelque chose qui est un appel à soi. Et là, c'est clairement les débuts de l'émergence de l'ombre, qui, à ce moment de notre vie, commence à faire parler de soi. Premier mouvement, émergence de l'ombre. Deuxième mouvement, un début de fragmentation, de fêlures qui apparaissent sur cette persona à laquelle on s'était tellement identifié qu'on pensait qu'on était uniquement cette persona. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans ce vécu-là, d'incomplétude que l'on ressent à cette période-là. Il est en fait extrêmement pertinent, parce que si on s'identifiait à cette persona comme étant l'alpha et l'oméga de soi, uniquement ça, soi, on se rend compte en fait qu'il y a le soi qui est beaucoup plus grand et que la persona n'est qu'une petite partie de ce soi. Et en fait, ce sentiment d'incomplétude est extrêmement juste, puisqu'on n'est pas que ce soi, on est des dimensions beaucoup plus importantes, mais on a tellement été conditionné à ne se penser que sur ce mode-là, qu'envisager qu'on peut être autre chose, ça comporte un trouble,
oui,
ça peut être déstabilisé.
Une angoisse, une remise en question de tout ce à quoi on s'est identifié.
Voilà, tout ce qu'on croyait être soi, et on découvre qu'il y a d'autres choses, d'autres dimensions de soi qui est là. Donc ça, c'est une deuxième étape, face à face, prise de conscience.
Avant de poursuivre, Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vivez votre crise de la quarantaine, Lélie?
Non, ce qui me fait rire, c'est que quand vous avez dit ça s'est ancré dans la croyance populaire qu'il y avait forcément crise, ça m'a fait penser à ma fille qui m'avait dit d'habitude les parents s'inquiètent en disant oh là là, quand les enfants vont être adolescents, ça va être un moment difficile. Un jour, ma fille, quand elle avait 12 ans, m'avait dit oh maman, j'ai une copine qui m'a dit méfie-toi, quand ta mère aura 40 ans, ce sera une cata. Donc les enfants eux-mêmes sont
ils
imprégnés de ce mythe.
Cette notion, ouais.
Et effectivement, donc il y a quelque chose qui est en même temps qui est réel, que l'on peut constater. Mais je voudrais revenir sur le fait que plusieurs fois, vous avez utilisé le mot « se poser des questions »,« la question », etc. Ouais. Et d'ailleurs, dans votre livre, vers la fin du livre, vous proposez en fait une sorte de bilan sous forme de questions, ouais, que l'on devrait se poser. Et la question que moi, je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas le faire avant d'en arriver là, si j'ose dire ? Puisque, et est-ce que ce n'est pas aussi nos devoirs de parents de ne pas donner des injonctions à nos enfants pour qu'ils se conforment à quelque chose d'extérieur à eux,
oui,
mais plutôt de leur apprendre à se poser ces questions déjà quand ils sont adolescents. Pourquoi je veux faire ça ? Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que le processus d'individuation ne peut pas commencer beaucoup plus tôt pour peu qu'on se pose les bonnes questions au bon moment ?
Voilà, ça c'est le critère important, pour peu qu'on se pose les bonnes questions. Au bout du compte, ces questionnements sur le sens de son existence, est-ce que je vis vraiment ce que je veux vivre ? Est-ce que je suis en authenticité par rapport à moi-même ? C'est effectivement transversal à l'existence. Mais on constate qu'il y a un timing, qu'à 25 ans, quand on se pose la question « qu'est-ce que je veux pour moi ?», ça n'est pas forcément un questionnement d'intériorité. Ça renvoie beaucoup plus à « qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie affective, dans ma vie professionnelle, dans mon exploration du monde ?». Donc c'est toujours beaucoup en référence par rapport à l'extérieur. Et c'est très bien, hein, ce mouvement est absolument nécessaire pour pouvoir devenir conscient de soi aussi, dans l'interface avec le monde extérieur. On est d'accord, hein, ce mouvement peut être tout le temps, mais ce timing est important et on voit, il faut qu'on soit exposé aussi à un certain nombre de déceptions, de désillusions, de d'effondrement de certaines croyances, notamment j'ai évoqué le corps qui fléchit. Hein, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ces questions qui montent en soi, est-ce que mon couple est vraiment... Est-ce que je vis dans mon couple ce que vraiment je voudrais y vivre ? Bah, si on vient de se marier, ce questionnement n'est pas encore là, parce qu'on est dans la dynamique, faire des enfants et les élever, et tout ce petit monde avance dans une grande joie et insouciance. Enfin, pas toujours insouciance, mais en tout cas, il y a un mouvement. Et ce questionnement, dire, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est raccord avec là où j'en suis vraiment maintenant ? Il n'y a pas ces questionnements-là à 35 ans. Ce qui est curieux, c'est que quand des journalistes de 35-40 ans m'ont interviewé pour parler de ce livre-là, les questions qu'ils posaient étaient, pardonnez-moi, complètement à côté de la plaque. Versus les journalistes qui avaient 45, 55 et plus, les questions étaient extrêmement pertinentes. Parce qu'il y a vraiment, on contacte en soi une dimension, cette relative urgence à être en phase avec soi-même, qui émerge bien sûr au cours de l'existence, mais de façon beaucoup plus saillante, beaucoup plus aiguë à cette période-là.
Je reviens quand même sur la question de l'Élie que je trouve très pertinente. Je comprends tout à fait qu'il y a des rythmes, des cycles oui, de la vie et qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Je pense quand même qu'il y a des cas particuliers, des gens qui sont beaucoup plus mûrs que d'autres,
bien
qui
sûr,
se posent
oui.
des questions beaucoup plus tôt oui. et qui trouvent peut-être leur voix et leur identité profonde.
Exactement.
Qui font émerger leur soi beaucoup plus jeune, finalement.
Tout à fait. Et on se rend compte qu'il y a des événements de vie qui font mûrir beaucoup plus vite
peut-être des épreuves
le processus de vie. Malheureusement, l'être humain change que sous le levier de la souffrance, hein, malheureusement. Et c'est souvent des épreuves de vie difficiles. On peut avoir des personnes exposées à des, par exemple, je pense à une femme, un cancer du sein avec multiples récidives, qui effectivement a vu émerger en elle ces types de questions, alors qu'elle n'avait que 35 ans, hein, avec vraiment une remise en question assez fondamentale de tout ce qu'elle avait construit jusque-là. Donc il peut y avoir des faillites professionnelles ou des périodes de chômage extrêmement difficiles, en tout cas des épreuves qui, oui, font mûrir. À l'inverse, quand on est trop préservé, je dirais, trop préservé, on voit des personnes qui traversent 45, 50, 55 ans, très peu de questionnements, rien du tout, et ça émerge peut-être autour de 60, 65 ans. C'est une espèce de courbe de Gauss avec le statistiquement le plus significatif entre 45 et 55, mais des gens qui commencent beaucoup plus tôt à 35 ou qui commencent beaucoup plus tard à 65.
Nous plions tous sous le vent, si fragile scintillant. Serions-nous juste une étoile, un filament qui brille puis casse sous le temps? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée sur le flanc des falaises au bord des océans? Au fond des océans, serions-nous lignes élégants, courbant les chines impatients? Serions-nous tous tout petits rayonnants, à l'horizon comme juste là devant? Serions-nous tous simplement faits d'argile, de suppléments? Serions-nous juste à l'orée sur le flanc des falaises au bord des océans?
Vous êtes sur France Culture, Racines du Ciel, en compagnie de Christophe Fauré. Nous parlons du processus d'individuation à l'occasion de la sortie de son livre « Maintenant ou jamais, la transition
en fait,
du milieu de la vie » chez Albin Michel.
Il est sorti l'an dernier.
L'an dernier, voilà. Mais bon, nous, on a du temps, hein, on laisse mûrir les choses. Par contre, je crois que vous venez de sortir un autre livre.
« Est-ce que tu m'aimes encore ?»« Se reconstruire après l'infidélité », toujours chez Albin Michel. Donc, une toute autre problématique, quoique,
oui,
puisse être relié, on pourra en parler.
Alors, ce livre « Maintenant ou jamais » vient de recevoir également le prix 2013 Fnac Psychologie Magazine.
Oui.
Lélie Anvar.
Oui, alors nous parlions des âges psychologiques qui sont peut-être d'ailleurs pas toujours liés à l'âge biologique.
Non.
C'est ce qu'on a pu constater tout à l'heure. Chez certains, ça commence plus tôt. Chez certains, ça commence plus tard. Chez certains, ça ne commence jamais, ce qui est peut-être regrettable d'ailleurs. Mais enfin, il faut toujours peut-être que c'est ça la vraie démarche du travail sur soi, c'est d'être sans cesse en questionnement sur le but et sur ce qu'on est, puisque si on croit qu'on est arrivé, ça veut dire par définition qu'il y a un petit problème. En tout cas, je vous ai apporté justement, alors c'est un texte de Christiane Singer qui raconte un conte soufi qui concerne précisément cette question des âges de la vie. Et c'est l'idée que c'est quand on est arrivé à maturité, à ce moment-là, on peut commencer à s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire à se poser la question fondamentale qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici voilà, et quel est mon but dans la vie. Et c'était un texte qui est extrait d'une conférence qu'elle avait donnée en fait sur ce sujet. Le monde est ce lieu d'alliance où se célèbre la rencontre des antonymes, où le feu et la glace, le doux et l'amer, le jour et la nuit, la fête et le deuil, la vie et la mort, l'homme et la femme, fêtent ensemble leurs arcanes. Beaucoup le soupçonnent déjà. Cette révolution dont il est question ici se joue en chacun de nous. Il ne s'agit pas d'un phénomène de masse qui transforme la vie de chacun, mais d'une transformation de la conscience qui, à partir de chacun de nous, rayonnera sur le monde qui nous entoure. Je ne résiste pas au plaisir de raconter une merveilleuse histoire de la tradition soufie. Un vieil homme sage est interrogé sur la trajectoire de son existence jusqu'à ce jour. Et voilà comment il en résume les trois étapes. À 20 ans, je n'avais qu'une prière. « Mon Dieu, aide-moi à changer ce monde si insoutenable, si impitoyable. » Et 20 ans durant, je me suis battue comme un fauve pour constater en fin de compte que rien n'avait changé. À 40 ans, je n'avais qu'une seule prière. « Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes parents et mes enfants. » Pendant 20 ans, j'ai lutté comme un fauve pour constater en fin de compte que rien n'avait changé. Maintenant, je suis un vieil homme et je n'ai qu'une prière. « Mon Dieu, aide-moi à me changer. » Et voilà que le monde change autour de moi. Et, ajoute Christiane Singer, pas de malentendu, ce n'est pas d'un renoncement à l'action qu'il s'agit, mais bien au contraire, d'une action neuve dans un esprit libre, libéré des scories de la puissance, du vouloir paraître, des vanités individuelles, des rivalités et des règlements de compte. Une action libre dans la joie de servir. « J'ai beaucoup fait, disait Platon, et si je réussis à animer en celui qui m'écoute le souvenir de ce qu'il sait déjà. »
Le souvenir de ce qu'il sait déjà, et c'est exactement au cœur de la démarche d'individuation décrite par Jung. Parce qu'au bout du compte, ce soi, avec ce grand S majuscule, qui est notre nature fondamentale dès que nous naissons, il va tenter par tous les moyens au cours de notre existence de devenir conscient de lui-même. Hein? D'un mouvement d'un soi inconscient, c'est le petit enfant, qui va progresser dans un premier temps du processus d'une conscientisation partielle via la persona, et que cette persona doit, au cours de l'existence, se fragmenter, se remettre en question, générer suffisamment de troubles intérieurs pour qu'il y ait à nouveau un regard vers l'intérieur. Donc on avait le premier mouvement vers l'extérieur pour exister au monde, remise en question de cette persona qui était le véhicule pour entrer en contact avec le monde et qui se fracture un petit peu, tout en restant en lien avec le monde, parce qu'il ne faut pas se couper. On a le mouvement maintenant de l'extérieur vers l'intérieur pour un regard sur ce qu'on est véritablement, ces dimensions de soi oubliées, reléguées justement dans l'ombre, et d'autres dimensions qui n'appartiennent ni à l'ombre ni à la persona, qui sont des dimensions beaucoup plus, je dirais, universelles, qui nous relient à ce que Jung a décrit dans l'inconscient collectif. Donc une dimension qui transcende simplement notre propre être. Et ce mouvement, même s'il paraît un peu tellement important, massif, universel, transcendant, qu'on a peut-être du mal à se reconnaître, eh bien c'est quand même ça qui s'exprime à travers nous dans cette transition du milieu de la vie, et c'est en tout cas l'invitation qui nous est faite de ce soi qui ne se connaît pas et qui progressivement, par cette boucle réflexive, arrive à une meilleure connaissance de toutes ces dimensions avec une profondeur parfois sidérante. Encore faut-il pouvoir accueillir ce processus, parce qu'il suppose quand même certains renoncements. Et je rebondis sur la continuité des différentes étapes. Quand on prend conscience que les choses ne fonctionnent plus forcément comme elles fonctionnaient avant, on doit en même temps continuer à vivre son existence avec son compagnon, sa compagne, les enfants, le travail, les amis, toutes les vacances, les loisirs, enfin, les soucis, etc. Et en même temps, on est appelé à l'intérieur. Et c'est ça qui est troublant. On est appelé à l'intérieur vers un questionnement où parfois on est rendu un petit peu vulnérable. Il y a quelque chose même d'une tonalité d'un deuil. Un deuil avec une nostalgie d'une dimension de soi qui ne tient plus la route. Et on ne sait pas encore trop qui on va devenir, qui on veut devenir. Et cette période-là, c'est une autre étape où il y a beaucoup de questions sans réponse qui s'élèvent en nous. Et c'est là un des aspects essentiels de cette période-là, de quelques années, de la transition du milieu de la vie. Il y a une injonction importante de patience. Parce que si on se pose des questions sur là où on est, on peut être amené à, poser, à trouver des réponses trop rapides. Un exemple, ça sera plus simple. Une personne qui est venue me voir avec, qui était médecin. Elle est médecin avec un questionnement vraiment sur le sens de son métier, en disant à l'hôpital, ça n'a plus de sens. J'ai perdu le truc. Je veux plus faire ça. Je veux démissionner. Je veux arrêter. Et en fait, donc un questionnement sur le sens de l'activité professionnelle. Et en creusant les choses, je suis rendu compte si elle faisait un recul, dézoomer un petit peu sur cette problématique spécifique, je suis rendu compte que d'autres secteurs de sa vie étaient en souffrance, notamment une créativité complètement mise à l'arrière d'elle-même, dans son ombre justement. Et il y avait deux aspects, un aspect de chant, de musique, de chant, et où elle était dans une petite chorale, enfin un petit truc qu'elle ne faisait vraiment pas vivre correctement, et de peinture, qu'elle faisait vivre, mais pas énormément. Et en fait, au fil de nos rencontres, elle s'est focalisée, elle a ouvert des options supérieures à ce à quoi elle s'ouvrait auparavant, donc un déploiement de liberté, hein, comme dit, comme vous voulez, le texte dont vous venez de
Christian Singer,
voilà, oui. Exactement, je cherchais le nom. Une liberté accrue par rapport à ce des plus accès à la musique et à la peinture. Et elle a véritablement fait de la place à cela. Et elle s'est rendue compte qu'en répondant à cette aspiration d'une plus de créativité dans son existence, ça a complètement dégonflé la problématique professionnelle. Et après quelques temps, je lui dis, mais on ne parle plus du professionnel. Il me dit, c'est vrai, mais c'est... Je suis heureuse dans mon travail, j'ai aucune envie de démissionner. Et vous voyez, là, il a fallu de la patience sur plusieurs mois, parce qu'elle aurait démissionné pour répondre à une attente légitime d'incomplétude, de répondre à cette incomplétude, alors que c'était un autre secteur d'elle qu'elle avait relégué dans l'ombre pendant des années et qui se revendiquait à elle. Donc ça, c'est un exemple de...
Donc un conseil du docteur Forêt, n'envoyez pas tout bazarder.
Exactement.
Lorsque vous sentez une démangeaison intérieure.
Exactement, et c'est pareil
pour
le couple.
Prenez le temps de voir vraiment ce qui se joue.
C'est pareil pour le couple, dans cette période de l'existence, on peut avoir l'impression, comme il y a un mal-être, on se dit, ok, on regarde autour de soi, quels sont les supports du mal-être, et on peut pointer son compagnon ou sa compagne. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus un mouvement intérieur de je suis plus en lien avec elle ou avec lui, mais la vraie question, c'est en fait je suis plus en lien vraiment avec moi-même. Et c'est ça, cette période de trouble, de transition où c'est difficile. Imaginez, vous êtes un chef d'entreprise ou un manager, vous devez être fort, solide, gérer vos équipes, et dedans vous êtes hyper fragile et vous pouvez pas en parler. Parfois, il y a la honte de se montrer en questionnement comme ça. Et ça traduit aussi l'isolement des personnes, peut-être, qui nous écoutent, hein, de devoir assurer sur tous les secteurs de leur vie, et avec vraiment le secteur intérieur où vraiment on est tout seul, on se dit, mais je perds pied. Et ça, c'est vraiment ce temps de transition. Et au fil du temps, comme c'est un processus naturel de maturation, il y a progressivement une invitation à... s'ouvrir à d'autres options de vie. Les autres options de vie, ça peut être soit réactiver des choses qu'on avait perdues dans le passé, comme un monsieur qui était un trader, justement, et qui avait laissé la musique, hein, j'évoquais tout à l'heure, dans son passé. Il voulait aller entre au conservatoire, ses parents lui ont dit hop, non, c'est les grandes écoles. Il a fait les grandes écoles, il est devenu effectivement un très brillant trader à Londres. Et dans cette période de vie, autour de 50 ans, il s'est reconnecté à la musique, parce qu'il n'était plus du tout rentré dans une salle de concert depuis ses jeunes années. Et il a réintroduit la musique, et ça a recréé un équilibre. Parce que c'est ça aussi, une des questions que l'on voit dans cette transition du milieu de vie, c'est qu'on perçoit un déséquilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et l'aspiration de réunir le yin et le yang, qui sont des notions qui sont précieuses chez Jung, réunir les contraires, réunir les opposés, c'est quelque chose qui est aussi important. Par exemple, même au niveau du caractère, une personne qui s'est toujours mise en tant que mère, par exemple, mère courage, toujours tout pour mes enfants, toujours une identité très très forte de mère, peut voir émerger en elle le besoin d'exister aussi par elle-même, de ne plus se reconnaître vraiment dans cette règle du jeu de la première vie, à savoir le rôle uniquement de mère et exister au monde que sur ce mode-là. Et autour de 45-55 ans, tu fais même... Du départ des enfants, il y a un questionnement sur « mais est-ce que c'est que ça ma vie ?» peut avoir envie de dire « mais je vais exister plus en tant qu'être humain. C'est quoi mes vrais besoins? C'est quoi mes vraies aspirations ?» Et là, il y a pendant un temps, un peu trouble, pas de réponse. Et puis les choses progressent, et c'est là l'enjeu. Hein. L'enjeu pour nous, on peut décider de ne pas se donner de plus d'options, de ne pas élargir son cercle d'influence, de ne pas de faire taire en soi cela. Malheureusement, beaucoup de gens le font. Hein. Beaucoup de gens ne saisissent pas qu'il y a une opportunité de croissance à ce moment-là et réduisent leur champ de vie plutôt que de l'expandre, plutôt que de développer cette qualité essentielle dans ce temps de vie de curiosité et de lutter contre deux choses. À la fois, une chose essentielle, des croyances. Un ensemble de croyances qui énoncent, après 45 ans, c'est le début du déclin, après 45-55 ans, professionnellement, c'est difficile d'évoluer, ce qui est vrai parfois, après 45 ans, le corps commence à partir en eau de boudin, etc., etc. Donc, un ensemble de croyances véhiculées par la culture qui conditionnent nos choix, qui, je dirais même, restreignent nos choix et fait qu'on est des territoires qu'on ne n'explore plus, qu'on ne pense même plus à explorer. C'est valable aussi pour des croyances personnelles. Je ne suis pas assez bien, assez intelligent. Je ferais mieux de rester là où je suis, c'est déjà pas mal, etc. Donc des pensées auto-limitantes qui vont contribuer à rétrécir le champ de vie. Et malheureusement, cette période-là, parfois pour certaines personnes, est le début, effectivement, d'un rétrécissement de vie. Donc, si on ne sait pas que quelque chose se passe, on peut moins facilement y réagir. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre en disant « Hé, les amis, il y a quelque chose d'important qui est là. Il y a une opportunité, il y a une fenêtre de tir assez spécifique pour vous, pour permettre de développer, comme je disais tout à l'heure, cette curiosité, augmenter les options, vous donner beaucoup plus d'options que ce que vous croyez, soit des options du passé, soit des options nouvelles, présentes, de développer des axes relationnels ou sociaux ou professionnels ou créatifs, enfin tout, plein d'autres axes qui vont dans le secteur de l'expansion et qui sont accessibles dès maintenant.
Oui, mais alors justement, c'est un peu la frustration, ouais, si j'ose dire, que j'ai eue en vous lisant. C'est que vous posez le problème en disant effectivement, finalement, la conclusion de tout ça, c'est que c'est un manque d'intériorité, c'est un manque véritablement de centrage sur ce que l'on est et pourquoi on est ici, quel est, oui, le sens de la vie, tout,
oui,
simplement.
Tout à fait.
Et le problème, c'est que la plupart des gens répondent à cette espèce de désir de profondeur qui vient d'eux-mêmes par des actions extérieures.
Exactement.
Alors que ça va du démon de midi jusqu'à faire des choses un peu étranges, abandonner son travail ou que sais-je. Mais ce qui me dérange, c'est que vos réponses aussi, parfois, restent. Parce que vous dites, voilà, les exemples que vous avez donnés. Je ne pense pas qu'il suffit d'aller à un cours de chant pour se reconnecter avec ce qui est l'essence, voilà, de ce qui fait l'essence de la vie. Et c'est vrai que vous expédiez un peu vite cette dimension spirituelle qui nous préoccupe évidemment ici. Et à la fin de votre livre, il y a quelques pages, mais juste quelques pages, sur le fait que, après tout, se connecter avec soi-même, c'est aussi se connecter, et c'est peut-être principalement et essentiellement se connecter à soi-même pour pouvoir répondre à cette question. Quel est le sens de ma vie? Pas dans le sens,
exactement,
qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux chanter? Ou est-ce que je suis créative parce que je vais écouter un concert ou que je fais de la peinture? Mais véritablement, pourquoi je suis ici? Et c'est vrai qu'à cette question, vous répondez avec... Si vous y répondez, c'est avec une certaine timidité.
Pour vous dire la vérité, hein, il y avait beaucoup plus de pages sur la spiritualité sur le manuscrit, dans le manuscrit initial. Beaucoup, beaucoup plus de pages, parce que de fait, le processus d'individuation de Jung est,
évidemment,
par essence, spirituel. C'est vraiment le cœur, il n'a de sens que si on aborde cette dimension-là. Mais pour mille raisons, ces pages ont disparu du livre initial pour mille raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui ne sont pas tout à fait de mon fait, qui était pour garder un petit peu le comment dire, pour répondre, pour être clair, à une certaine exigence de réponse extérieure.
Et voilà.
Voilà.
C'est, ouais, bien ça.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y aurait à poursuivre le livre là où il s'arrête.
Hein. Oui, en fait, c'est exactement ça. Il s'arrête là où on là aimerait on qu'il commence ou qu'il recommence.
Et ce serait un autre livre, mais bon, il y a des impératifs.
Moi, j'ai été frappé, moi, dans mon expérience, ouais. de voir. J'ai fait un test de doctorat sur le bouddhisme en Occident et ouais. j'ai fait toute une enquête sur les. Par exemple, les Français qui s'intéressent au bouddhisme, et j'ai vu que c'était entre 35 et 50 ans.
Ouais,
c'est pas avant. Et la grande majorité, c'est à ce moment qui correspond tout à fait au questionnement existentiel. Et ils trouvent dans le bouddhisme une pratique ou une philosophie qui répond bien à cette question essentielle du sens de la vie. Moi, je vois dans toutes les conférences que je fais autour de ces thèmes de spiritualité, j'ai un public qui est aussi essentiellement entre 35 et 55 ans. Ah, oui. Donc, on voit bien que le questionnement spirituel, il est très, très fort à cet âge-là.
Oui. C'est vraiment le cœur du processus.
Et que, effectivement, pour pouvoir faire cette transition de manière réussie, il me semble, en effet, que c'est pas seulement de trouver en soi, justement, la créativité, mais vraiment, peut-être aussi, faire face. Mais ça, vous en parlez, encore une fois, peut-être pour moi, pas assez, mais de faire face à ces démons, dans le sens, vraiment, ces démons, ces peurs, et y aller jusqu'à trouver une réponse.
Oui. Néanmoins, il y a quelque chose qui est important, parce que la dimension spirituelle, elle ne peut exister que si elle s'incarne. Ça, c'est un grand souci de l'incarnation des concepts. Je veux développer la spiritualité, oui, mais après on se demande mais comment je fais vivre ça dans mon existence, donc quelque chose qui est inscrit quand même dans la réalité quotidienne. Et je l'aborde quand même.
Oui, bien sûr.
Je l'aborde quand même en pointant des grands axes que l'on retrouve chez les personnes. Alors, curieusement, j'ai beaucoup cherché dans mon expérience des soins palliatifs par rapport aux personnes en fin de vie, personnes vraiment qui terminent leur existence et qui énoncent toutes, quand on les invite à regarder un peu en arrière sur ce qui a véritablement compté dans leur existence, qu'est-ce qui a été l'essentiel ? Et en fait, on retrouve toujours les mêmes choses en termes de donner du sens à sa vie par le fait d'aimer du mieux qu'on pouvait, le fait de vivre dans l'instant présent, le fait de vivre une vie le plus authentique par rapport à soi-même, le fait peut-être de donner plus que ce qu'on a reçu. Donc tout cela, c'est un ancrage spirituel, mais qui se décline très fortement dans le quotidien. Donc c'est ça aussi l'invitation, dimension spirituelle, mais dans quelque chose qui se vit au quotidien.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie de Christophe Fauré et nous parlons de son livre Maintenant ou Jamais, la transition du milieu de la vie. Lélie Anvar.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant que pour parler de la transition du milieu de vie, vous donniez beaucoup de témoignages de personnes qui sont justement à la veille de mourir. peut-être aussi pour nous éveiller, nous dire n'arrivez pas au jour de votre mort avec ce regret.
Exactement.
De ne pas avoir fait ce que vous deviez faire, de ne pas vous être réalisé pleinement en tant qu'être humain. Et ça m'a fait penser justement à un très joli petit texte qui est attribué à Borges. C'est paru dans un journal et il est attribué à Borges, ça lui ressemble bien, donc on va dire que c'est un texte de Borges. En tout cas, c'est un très joli texte sur cela, justement, sur l'idée qu'il faudrait peut-être être capable de vivre d'une manière que l'on ne va pas regretter à la veille de sa mort. Si je pouvais vivre ma vie à nouveau, j'essaierais dans ma suivante de commettre davantage d'erreurs. Je ne m'acharnerais pas à être tellement parfait. Je me détendrais davantage. Je serais plus simple que je ne l'ai été. Je prendrais très peu de choses vraiment au sérieux. Je serais moins propre. Je prendrais davantage de risques, entreprendrais plus de voyages, regarderais plus de couchers de soleil, escaladerais plus de montagnes, nagerais dans plus de rivières. Je rechercherais davantage d'endroits où je ne suis jamais allé, mangerais plus de glace et moins de haricots, aurais plus de problèmes réels et moins de problèmes imaginaires. Je faisais partie de ces gens qui passent chaque instant de leur vie de manière réfléchie et utile. Bien sûr qu'il y avait aussi des moments pleins de joie. Mais si je pouvais retourner en arrière, j'essaierais de vivre uniquement ces beaux moments. Car des fois que vous ne le sauriez pas, c'est de cela que la vie est faite, uniquement de moments. Ne perds pas le maintenant.
Magnifique. Et ce mouvement-là de vivre différemment sa vie, et cette transition de milieu de vie qui invite à une intériorité, beaucoup de gens peuvent penser que c'est justement un mouvement trop égocentré en disant « Ah ben c'est ça, dans la deuxième moitié de sa vie, maintenant on va regarder son nombril et aller que à l'intérieur. » Et c'est complètement à l'opposé, il le mentionne dans le texte. C'est un mouvement nécessaire. Au début, on se tourne vers l'extérieur pour trouver sa place au monde. Arrive un moment de transition où on comprend qu'il faut regarder à l'intérieur et en fait, se construisant, devenant cet individu du processus d'individuation, un être plein et entier, intègre, le plus entier possible, va servir comme une espèce de socle intérieur, plus solide peut-être, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour se reprojeter dans le monde. Un pied en soi, un pied dans le monde. Et c'est à l'inverse de l'idée de ce retrait à l'intérieur de soi, dans quelque chose qui est quasiment un ermite qui va se replier en soi, mais c'est justement un levier pour aller vers l'extérieur. Et quand on regarde d'ailleurs concrètement les populations qui sont dans les associations, ce sont des personnes dans cette tranche d'âge qui sont les plus représentées, et pas forcément que les retraités. Parce qu'il y a cette conscience aussi que... plus ancré en soi, plus dans l'authenticité par rapport à soi, éveille presque automatiquement, une ouverture vers l'autre. Et très souvent, toutes les personnes en questionnement au niveau professionnel, par exemple, que j'ai pu rencontrer, c'est OK, les chiffres, les données, les statistiques, les choses professionnelles, mais dans l'humain est où dans cela? Et donc c'est véritablement cette questionnement qui est le fond, un retour sur l'essence de ma vie, sur le versant, quelle contribution au monde avant de partir puis-je véritablement faire? Et la transition du milieu de la vie, c'est aussi ça, une invitation à l'intériorité, l'enrichissement personnel, se retrouver, mais avec presque une intention de prendre appui sur cela pour pouvoir d'autant mieux explorer le monde et d'autant mieux restituer peut-être ce que ce chemin nous a appris en termes de sagesse, en termes de connaissance de soi et en termes peut-être d'aider les autres à cheminer, les plus jeunes à cheminer dans leur vie, peut-être en faisant peut-être moins d'erreurs, en se trompant peut-être un peu moins. Et éveiller peut-être à des questionnements qui n'ont, vous avez raison tout à l'heure, pas besoin de se poser aussi tard. On se les pose tard, mais ce serait bien de se les poser peut-être à 30 ans, à 35 ans. On gagnerait sûrement du temps.
Alors, la semaine dernière, on recevait Isée Tardan-Masquelier qui nous parlait de Ramana Maharshi et de la libération, donc un délivré vivant. Et on parlait justement de la réalisation du soi dans le cadre de l'hindouisme. Et je lui ai posé la question du lien entre la réalisation du soi, le fait de quitter l'ego, ne plus s'identifier à son ego pour réaliser ce soi divin qui est à l'intérieur de nous et qui nous relie à cette universalité, à ce un qui nous dépasse et qui est en même temps à l'intérieur au plus profond d'entre nous. Je lui demandais, est-ce que ça correspond selon vous un peu à ce que Jung appelle aussi le processus d'individuation? Qu'est-ce que vous en pensez si vous intéressez aux spiritualités orientales?
Moi, je crois que ça rejoint énormément cette dimension, le soi étant cette parcelle de divin. Et comme je disais tout à l'heure, un Jung ne s'est pas cantonné uniquement au soi individuel. Il le relie avec la dimension universelle d'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, c'est pas seulement la somme de tous les inconscients des êtres humains, mais ça connecte à des étages, l'étage encore plus supérieur, à la dimension du réel, avec un grand R majuscule, du manifesté. Et il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui sait ça, qui a cette intuition-là, qu'il y a une connexion beaucoup plus vaste avec le grand tout. Et je crois qu'il y a véritablement une dimension spirituelle intrinsèque à chacun d'entre nous, même si on l'ignore, même si elle n'est jamais actualisée au cours de notre existence. Mais c'est quand même étonnant que tous les gens sont touchés par un film comme par exemple... ces moines qui ont été...
Des hommes et des dieux.
Des hommes et des dieux. Pourquoi ça a eu autant de succès? Qu'est-ce qui fait que ce film a touché autant de gens? Et j'ai l'intime conviction qu'il touche directement cette dimension de nous qui aspire, qui a soif, qui a cette nostalgie de soi-même, mais soi-même pas dans une dimension réduite de mon petit ego, mais soi-même dans la dimension vaste et transcendée qui est notre nature fondamentale.
Terminons cette émission des Racines du Ciel avec Christophe Fauré par un bref agenda culturel, Lélie Anvar.
Oui, je voudrais parler en fait d'un roman traduit de l'anglais de l'écrivain John Didion qui s'intitule Le Bleu de la Nuit. Alors ça peut paraître étrange de parler de ce roman dans le cadre de cette émission parce qu'il n'est pas directement lié aux questions spirituelles et pourtant... Et c'est en lien aussi avec tout ce que nous avons dit pendant cette émission, puisque ce roman a été écrit, enfin ce roman, ce livre, c'est pas un roman, ce livre a été écrit en hommage à la fille que John Didion a perdue, donc elle avait moins de 40 ans quand elle est morte, et elle revient en fait sur toute sa vie. Et cette remise en question fondamentale, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant, qu'est-ce que c'est que vivre dans ce monde, qu'est-ce que c'est que la relation, qu'est-ce que j'ai à donner à l'autre, qu'est-ce que j'ai à recevoir. Toutes ces questions, elle se les pose parce que sa fille est morte. Et c'est un livre absolument bouleversant. Vraiment, je l'ai lu avec une émotion incroyable. Parce que, bien qu'elle soit âgée, justement, enfin, ces questions, elle se les pose. Et pour elle, il y a peut-être que la littérature qui sauve. Évidemment, il n'y a pas cette dimension spirituelle dont on a parlé tout à l'heure, mais elle est quand même là.
Elle est là, hein,
puisqu'elle parle, finalement, de ce que c'est que de se confronter à la mort. Et comment... La littérature, comment écrire peut nous sauver tous de cette noyade douloureuse face à la mort d'un être cher. Donc vraiment, Le Bleu de la Nuit, c'est un roman qui m'a ébloui et bouleversé en même temps.
Deux petites choses rapidement. Je rappelle que le numéro du Monde des Religions d'avril est consacré à un grand dossier sur l'homosexualité, pourquoi les religions la condamnent. Et puis, je signale par rapport à vous, Christophe Fauré, que vous avez conçu un site qui s'appelle www.traverserledeuil.com,
oui.
Un premier site francophone d'accompagnement du deuil. Vous êtes également parrain de l'association Phare Enfants Parents, qui œuvre pour la prévention du suicide de l'adolescent et l'accompagnement des parents en deuil après le suicide. Et également de l'association Apprivoiser l'absence, organisant des groupes de parole pour les parents en deuil. Voilà, on peut retrouver, j'imagine, tout ça sur le site internet qu'on vient de citer.
Et sur mon site,
et sur votre propre site.
christophefort.com.
Voilà, c'est très simple à retenir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Gérard Haddad et Didier Long qui viendront nous parler des jours du Seigneur dans le judaïsme et le christianisme. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8 heures. Très bon dimanche à tous.